Bonjour à tous.
Hello everyone.
Ben, on voit quelques visages familiers qu'on n'avait pas vu depuis un moment, c'est sympathique. Oui. Qui s'appelle Marlo? Marlo? Oui, bonjour, bienvenue. Enchanté. Donc j'ai dit que Josiane s'était blessée le pied, si vous pouvez lui passer un petit coup de fil dans la semaine pour l'encourager, je crois que ça lui fera plaisir. Pas tous en même temps. D'autres informations? Captain a pu rentrer à l'école française. Et puis, d'autres nouvelles? C'est à peu près tout hein, pour cette semaine. Nous continuons donc dans notre série d'études sur le Saint-Esprit. On va demander au Saint-Esprit de nous aider dans cette étude. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci que c'est l'Esprit Saint qui l'a inspiré. Et que ce même Esprit Saint est parmi nous pour nous aider à la comprendre. Seigneur, bénis cette étude. Aide-nous à t'aimer en esprit, à t'adorer en esprit et en vérité. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur Saint-Esprit pour ta présence parmi nous. Merci d'être ce consolateur, ce... cette personne qui nous convainc de notre péché, de la justice et du jugement. Seigneur, sois à l'œuvre parmi nous ce matin. Par le nom de Jésus, nous prions. Amen. J'étais mariée à Nancy depuis quelques années et je croyais la connaître. Jusqu'au jour où je l'emmenais faire un tour sur des montagnes russes. Et là, j'ai pas reconnu cette personne qui n'arrêtait pas de crier, comme si elle était hystérique. Et ne l'emmenez pas sur les montagnes russes. Il faut dire que celui-là, c'était des montagnes russes dans le noir avec des lumières effrayantes qui s'allumaient, ça faisait peur. Donc depuis, on est allé il y a quelques années à Disneyland, à Paris, à Disney, Paris, Euro Disney, et Sébastien et moi, on raffole des montagnes russes. Et Nancy, pendant ce temps-là, fait quelque chose d'autre avec Tonio. Et les montagnes russes, c'est formidable. On monte lentement, puis d'un seul coup, ça... On s'en va en bas à toute vitesse, on croit qu'on va sortir des rails, ça arrive des fois, je crois. C'est drôle de monter en haut et en bas sur des montagnes russes. Mais pour faire une transition à notre étude, quand il s'agit de notre vie spirituelle qui a des hauts et des bas comme ça, alors là, c'est pas drôle du tout. Un jour, on sent la présence du Seigneur, on est prêt à conquérir, à évangéliser le monde entier.
Day, world,
Et le lendemain, on n'est même pas sûr que le Seigneur existe, ou qu'il nous aime, ou qu'on soit sauvé. Et la Bible nous montre en particulier l'exemple d'une personne qui a connu ce genre de vie spirituelle en montagne russe. Vous connaissez bien sûr le livre des Actes. C'est ce qu'on appelle dans la Bible, il y a marqué les Actes des Apôtres. Plus exactement, il devrait s'appeler les Actes de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est à l'œuvre. Malgré les apôtres. Dans le chapitre 2 de ce merveilleux livre, nous voyons comment tous les croyants sont remplis de l'Esprit Saint. Nous voyons comment l'apôtre Pierre va prêcher un sermon et comment 3000 personnes vont venir à Jésus-Christ, vont être sauvées. 3000 personnes. Et cependant, c'est exactement le même homme, ou presque le même homme, qui était, on pourrait dire, une loque spirituelle 50 jours plus tôt. Like a spiritual rag. 50 jours plus tôt, en effet, c'était la Pâque. C'était le jour donc de la mort de Jésus-Christ. Et tout de suite après, il y avait eu la fête des pains. La Pâque était suivie dans les jours qui suivaient de la fête des pains sans levain. Puis la fête des prémices, c'est-à-dire des premiers fruits, de la première récolte. Et il y a un verset dans 1 Corinthiens qui dit que Christ est ressuscité d'entre les morts, prémices, donc premier fruit de ceux qui sont décédés. Et ces prémices, ces premiers fruits, s'annonçaient une récolte qui aurait lieu 50 jours plus tard, 7 semaines plus tard. Et donc on voit Pierre qui moissonne avec 3000 personnes qui viennent à lui en un seul sermon. Qu'est-ce qui est arrivé à Pierre? Pierre, c'est un personnage très attachant dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Je l'aime bien sûr parce que je porte son nom. Mais c'est aussi un homme très réel. On le voit avec tous ses qualités, mais aussi ses défauts, son orgueil, son assurance en lui. C'était un homme rude. Son frère André et lui étaient des pêcheurs sur la mer de Galilée. Il était toujours plein d'enthousiasme qui le rend sympathique et de zèle. Mais on pourrait dire qu'en fait, malgré ça, il était une sorte de Gaston Lagaffe spirituel. Putting his food in his mouth. Sa vie spirituelle, c'est les montagnes russes. Ça monte en haut, et puis ça s'écrase en bas, ça repart en haut. On va regarder quelques épisodes de sa vie pour se remémorer qui était Pierre. Je vous invite à regarder dans Matthieu 14.
Matthew 14.
le passage où Pierre fait du surf sans voile ni planche.
It's the passage where Peter's surfing without a board or a sail.
Donc vous vous souvenez sans doute de cet épisode, page 18, donc dans la deuxième partie de la Bible, Matthieu 14, à partir du verset 22. Il est dit que Jésus obligea les disciples à monter dans la barque, après avoir passé la journée avec eux, et aller de l'autre côté de la rive, du lac, pendant qu'il renverrait les foules. Et puis, après les avoir renvoyés, il monte prier sur la montagne. Et pendant ce temps-là, les disciples ramaient. Ils étaient déjà à plusieurs au milieu du lac, pratiquement. Et il y avait des vagues qui les malmenaient, il est dit dans verset 24, car le vent était contraire. Et à la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Donc il faut imaginer un peu la scène. Ils ont passé toute une journée fatigués. Jésus leur a demandé d'aller de l'autre côté, qu'il les rejoindrait plus tard. Ils commencent à ramer, puis le vent se lève, le vent est contre eux, ils rament, ils n'avancent pas. Il y a des vagues, il fait nuit. Puis soudain, ils voient Jésus qui marche sur la mer. Et les disciples affolés disent: oh, c'est un fantôme. Et Jésus leur dit: c'est moi, n'ayez pas peur. Et à ce moment-là, Pierre, là on va sortir sa nature plein de zèle et de foi, qui dit: si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. Il est dit que Jésus lui dit: viens. Et Pierre sort de la barque et marche sur les eaux. Waouh! Vers Jésus. C'est la victoire. Le sommet de la montagne. Il est en haut de la colline. Mais il détourne les yeux, il voit que le vent est fort, qu'il y a toujours des très fortes vagues, et il prend peur, et il commence à s'enfoncer. Il redescend, c'est la défaite, la descente vers le fond de l'eau. Mais heureusement, il a le bon sens de prier, ce qui est sans doute la prière la plus courte de la Bible, la plus fondamentale. Seigneur, sauve-moi. Jésus le rattrape par la tête ou par les cheveux. Il le reprend, il lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ça, je crois que on peut se reconnaître dans cet épisode de Pierre. Il y a bien des fois où on est plein de confiance, on est prêt à marcher sur les eaux. Puis on regarde un peu les obstacles. Et là, on coule. Jésus nous rattrape et nous dit: homme de peu de foi, femme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Chapitre 16, regardons à partir du verset 13, page 20. C'est Jésus qui se livre à un petit sondage auprès des disciples. Bon. Il leur demande: au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Verset 14, ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Mais il leur dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et chacun de nous, nous avons aussi à répondre à cette question directement. Jésus nous demande à chacun, toi, qui dis-tu que je suis? Et Simon Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et on l'a déjà dit souvent, parce qu'on appelle Jésus souvent Jésus-Christ, on pense que Jésus c'est son prénom et Christ c'est son nom de famille. On dirait Jean qui dit Olivier Belval, Nancy Petrignani. Jésus, c'était son prénom qui signifiait Dieu sauve, et Christ, c'était le nom du Messie. Ça veut dire Messie. En grec, c'est celui qui est oint par le Seigneur, c'est celui que les Juifs attendaient depuis que Dieu leur avait promis quelqu'un qui viendrait les racheter. Et en fait, il s'aperçoit qu'il a donné la réponse exacte. Jésus lui répond, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et il continue en disant, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Bref, c'est la victoire, il a donné la bonne réponse. C'était intéressant ce verset parce que c'est sur ce verset que les catholiques se fondent pour expliquer la papauté. Et en fait, Jésus l'a fait un jeu de mots sur le nom de Pierre. Il dit tu es Petros en grec, c'est-à-dire la petite pierre. Et sur ce Petra, qui est un rocher, je vais bâtir mon église. Mais le Petra, le gros rocher, c'est de réaliser que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et lui-même, Pierre, dans une épître qu'il a écrit, dans une lettre qu'il a écrite, dans 1 Pierre 2, 6, explique ce principe. Il cite le prophète Ésaïe. Et il dit, voici, je pose en Sion, c'est-à-dire en Jérusalem, une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confondu, ne sera pas honteux, ne sera pas mis dans une position de honte. Donc, vas-y. « L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 2:20 que la pierre angulaire, cette pierre de base, ce rocher sur lequel l'Église est fondée, c'est Jésus lui-même. Mais toujours est-il que Pierre a donné la bonne réponse, en plus devant les autres disciples, il est là, oh, c'est la victoire encore une fois. Il est en haut de la montagne russe. Mais peu de temps après, verset 21, Jésus explique à ses disciples qu'il doit aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des chefs religieux, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Pierre, fort de sa bonne réponse, de sa confiance en lui, décide de remettre les choses en ordre avec Jésus. Et lui dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Et c'est la réplique cinglante de Jésus. Arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale, c'est-à-dire un obstacle, quelque chose qui me fait trébucher, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Et il poursuit en disant, verset 24, que si quelqu'un veut venir après moi, il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Donc Jésus explique à notre pauvre Pierre qu'en fait, lui qui voulait éviter les souffrances de Jésus, éviter les souffrances à Jésus. En fait, Jésus lui dit que le vrai disciple doit s'identifier avec Christ dans ses souffrances jusqu'à porter sa croix et mourir pour lui. C'est Satan qui a trompé Pierre, Jésus dit. Là encore, là, c'est la descente à 150 à l'heure vers le bas. Là. Il est retombé. C'est l'agonie de la défaite, comme on dit. Hein. C'est terrible. Mais on va le voir remonter. Matthieu 17. Et on peut apprécier au passage la patience et l'amour de Jésus qui montre ce même amour avec nous. Parce que 6 jours plus tard, Jésus prend avec lui son trio favori, Pierre, Jacques et Jean. Et il monte sur une haute montagne où Jésus est transfiguré. C'est-à-dire que son corps est métamorphosé devant eux, il devient resplendissant comme le soleil, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Et Moïse et Élie apparaissent et parlent avec Jésus. Et là, notre pauvre Pierre qui ne peut pas rester en place cherche comment, qu'est-ce qu'on peut faire. Et là, il a une idée. Il va construire 3 tentes, une pour Jésus, une pour Élie, une pour Moïse. Et là, verset 5, avant qu'il ait fini de parler, comme il est dit, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les enveloppa, et voici qu'une voix sortit de la nuée qui disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Autrement dit, c'est pas Élie et Moïse, ils sont bien, mais c'est pas la même catégorie. Hein. C'est lui, mon fils bien-aimé, Jésus, le Christ. Et là, lorsqu'ils entendent cette voix de Dieu le Père, ils tombent la face contre terre, saisis d'une crainte violente. Là, c'est encore la défaite. J'ai encore mis mon pied dans ma bouche, comme on dit en anglais. En anglais, ils disent mettre le pied dans la bouche, il faut déjà être souple. En français, on dit mettre les pieds dans le plat. Et ça, c'est l'histoire de Pierre. Il mettait toujours les pieds dans le plat. Puis on sait, bien sûr, à la crucifixion, juste avant que Jésus ne soit arrêté pour être jugé et crucifié, cet épisode tragique dans la vie de Pierre. On voit ça au chapitre 26 de Matthieu, verset 33, page 34 de la du Nouveau Testament. Et là encore, Pierre prend la parole. On est toujours un peu nerveux quand Pierre prend la parole avant le livre des Actes. Jésus vient de leur dire qu'il va être mis à mort, que les brebis du troupeau seront dispersées. Il leur dit pourtant, après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Donc Jésus explique en fait le plan de Dieu, que c'est pas tragique, mais Pierre, lui, il a entendu dire que les brebis allaient quitter le berger. Et lui dit, quand tu serais pour moi une occasion de chute, tu ne le seras pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. C'est-à-dire que peut-être que les autres ne voudront pas te soutenir, mais moi, jamais je t'abandonnerai. Et Jésus lui répond cette réponse bien connue, en vérité, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. Là encore une fois, il va reprendre Jésus, il va le contredire. Au passage, c'est toujours une mauvaise chose de se disputer avec Dieu. Parce que c'est toujours lui qui a raison. Pierre lui dit encore, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. Et là, tous les disciples, ah ouais, moi non plus, hein, tous les disciples dirent de même. Et là, on est tous d'accord, je crois, on sent que Pierre, c'est sincère, c'est pas une hypocrisie, c'est pas je vais dire ça, mais je le ferai pas, c'est de tout son cœur, il y croit, et oui, par ma force, jamais je t'abandonnerai. Un peu plus loin, lorsque Jésus est arrêté, on le voit que c'est lui qui va dégainer l'épée, donc il est sérieux, il va trancher l'oreille du grand prêtre, du serviteur du grand prêtre, Malchus, que Jésus va devoir recoller.
And thrust out his wheel and hit his sword out and he cut the ear off of the servant from the high priest.
Mais plus loin, lorsque Jésus est emmené chez le souverain sacrificateur pour être jugé, on voit au verset 58 du 9 chapitre, page 35. Il est dit que Pierre le suit de loin, jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, et entra et s'assit avec les gardes pour voir comment cela finirait. Ça, suivre Jésus de loin, c'est toujours mauvais. Si on suit Jésus, autant le suivre de près, avec toute notre volonté et l'aide de l'Esprit Saint. Verset 69, on voit un peu plus loin. Pierre est assis dans la cour, dehors.